les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Agent, impresario, art média, vous connaissez. Éditeur, champ libre, vous connaissez également. Quand les choses allaient mal, il était d'une humeur délicieuse. Il, à savoir un homme dont on a peut-être plus en mémoire la fin tragique et les hypothèses et les rumeurs qui l'entouraient, que la vie professionnelle elle-même d'une grande richesse. Surpris par la nuit, rediffusion d'une émission consacrée à Gérard Lebovici, proposée pour la première fois sur France Culture le 18 février 2004.
Surpris par la nuit.
Enquête dans le show business après l'assassinat lundi soir à Paris dans le parking de l'avenue Foch du producteur de cinéma Gérard Lebovici, l'homme qui faisait les stars, l'ami de Belmondo, d'Yves Montand et de Catherine Deneuve. 4 balles de 22 longs rifles dans la tête, un travail de professionnel, qui et pourquoi.
Il est certain que Gérard Lebovici est au carrefour de plusieurs haines. Il y a la haine, la jalousie en tout cas des gens qu'il a supplantés dans le domaine professionnel du cinéma. Il y a la haine peut-être de l'institution policière à l'égard d'un homme qui est fasciné par des personnages comme Mesrine. Il y a donc beaucoup de haine autour de lui, mais aucune n'apparaît comme pouvant expliquer de manière décisive son assassinat.
Il est 18h30 ce soir-là quand le producteur quitte son bureau du 16e arrondissement. Il vient d'annuler un rendez-vous.
Il y a forcément, à partir d'un certain moment, un mystère Lebovici. Mais qui dit mystère, oui, un mystère, je ne peux pas vous révéler le mystère, ça se saurait. Les raisons pour lesquelles il a été assassiné. Il y a des hypothèses très différentes.
La personnalité de la victime complique la tâche des enquêteurs. Lebovici était un homme que l'on voyait beaucoup, mais qui se montrait peu.
On était au cours Simon ensemble. Et puis les années ont passé. Je sais qu'il avait repris un rôle de Michel Piccoli dans une pièce de Georges Arnaud.
Claude Berry.
Je l'ai revu à la fin des années 50. Je jouais une pièce de théâtre Chin Chin de François Billédou. Et un soir, il a débarqué au théâtre avec Michel Méritz, qui après a travaillé avec lui, Serge Rousseau. Et puis comme moi, je piétinais un petit peu comme comédien, j'avais beau jouer Chin Chin, mon père s'impatientait, il devait peut-être sentir qu'il allait mourir jeune. Très souvent, il me disait de faire l'impresario. Il disait, qu'est-ce qu'elle fait ta bonne femme? Elle montre des photos et elle passe à la caisse. Et en parlant comme ça, je leur ai un peu vendu l'histoire de mon père. Et à quelques temps de là, eh ben, j'ai appris que Gérard Lebovici montait une agence avec Michel Méritz.
Parce qu'on n'était pas loin de s'aimer quand même sur un certain plan. Et puis, il m'a dit, de toute façon, vous savez, vous vous appelez comme vous appelez, moi je m'appelle comme je m'appelle, c'est ça qui nous sépare. Ça se débattra bien pour vous, mal pour moi.
Il n'a pas cette réussite sans avoir un certain charisme. Il était très intelligent, il menait très bien ses affaires, il représentait à peu près 70% du chiffre d'affaires du cinéma français, enfin à travers ses acteurs et ses metteurs en scène.
Moi, je le trouvais en même temps très naïf, parce qu'on le montre toujours très... Il était enfantin, il s'amusait de... Bon, bel succès, le mettait en joie. Vraiment, il était absolument pas blasé. Il riait comme un enfant, quoi. Il y avait un côté enfantin qui était formidable, et qu'on ne voit pas, qu'on n'imagine pas, finalement.
Et le Gérard Lebovici de Champs Libres, je peux dire que je le connais pratiquement pas. Je peux... Il y a eu comme un rideau le jour où disons, il a été pris de passion pour l'édition et certainement un engagement politique quelque part.
Impresario, Gérard Lebovici fonde Art Média en 1969.
Fin 71 paraissent les premiers ouvrages de sa maison d'édition, Champ Libre. Ils montent enfin, artiste, auteur, associé, les 3A, 3 ans avant sa mort. Le 5 mars 1984, à l'âge de 52 ans, Gérard Lebovici est assassiné dans sa voiture. Retour de commission rogatoire générale, 1991, non-lieu. Enquête. Car au-delà des rumeurs, plus ou moins avérées, se manifestent l'entreprise et l'emprise d'un mécène moderne qui ne cessa de se battre contre la sclérose de son époque. Gérard Lebovici, il est plus méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l'ombre. Une proposition de Benoît Bourreau, assistée de Guillaume Noué. Mise en onde, Angélique Thibault.
Je suis entré en janvier 52 au cours Simo et je crois que Gérard a été de 3 mois avant moi. Quoi.
Serge Rousseau.
Gérard avait 20 ans, moi j'avais 22 ans à l'époque. C'était un comédien tout à fait remarquable. Il est entré au conservatoire, là. Pour entrer au conservatoire, il jouait Auguste de Sidna, pour vous montrer que c'était un emploi très 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 fort. Et au cours, il était considéré comme un des meilleurs élèves du cours. Non, c'était quelqu'un pour qui, quelque part, les gens ne se posaient pas de questions en tant que comédien. Simplement, bon, il y a le problème du temps, il faut la patience, quoi. Et ça, je ne suis pas sûr que c'est une chose qu'il a fait réellement. Je crois aussi, peut-être, et ça, on n'en a jamais parlé, c'est que Gérard, donc, avait 20 ans. Sa mère était morte en déportation et son père est mort tout de suite, est mort de chagrin. Quand j'ai connu Gérard, il avait donc un tuteur qui était un oncle et il habitait dans l'appartement de ses parents, rue de la Trémoille, avec sa sœur. Donc je pense aussi, et ça, je ne suis pas sûr, qu'il a à un moment donné a fallu qu'il gagne sa vie aussi. Et comme son père lui avait laissé une petite affaire de poils de brosse, enfin qui étaient des petites industries qui se trouvent près de Beauvais, il a repris ça pour, je pense aussi, pour gagner sa vie. Ça s'est mis à très 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 bien marcher parce que c'était un homme d'affaires remarquable aussi. Voilà. Souvent, quand je ratais mon train, tout ça, bon, j'allais coucher chez Gérard. Et lui, bon, le week-end, venait déjeuner chez mes parents. Malgré qu'il ait quitté le métier, qui pour moi avait été terrible, parce que c'était la seule personne que je connaissais, enfin, sinon qui était dans le métier, tout au moins qui voulait le faire et avec qui j'avais des rapports aussi grands. Et un jour, Claude Berry, qui était aussi avec nous au cours Simon, m'appelle et je dis à Gérard, tu viens, il y a Claude Berry qui m'invite à venir voir la pièce, est-ce que tu veux venir avec moi? Gérard me dit oui. Et dans la salle, il y avait aussi quelqu'un qu'on avait connu au cours Simon, qui était Michel, qui s'appelait Mitz à l'époque, mais enfin qui est devenu Michel Méritz. Et à la fin de la présentation, Claude Berry, qui est toujours plein d'idées, qu'on avait 10 par jour, il dit, mais toi, Gérard, qui est un artiste, qui voulait être comédien, pourquoi les agents, parce qu'à l'époque, les comédiens se plaignent toujours des agents. Même maintenant, ça continue d'ailleurs. Mais il se dit, toi qui connais bien les comédiens, est-ce que tu voudrais pas ça serait bien que tu deviennes agent. Gérard dit, oui, faut que je réfléchisse, tout ça. Puis ils se sont reparlés, et un jour, ils ont pris la décision de créer une agence. Et les gens que Michel connaissait, qui à l'époque étaient inconnus, c'était Godard, c'était Truffaut, c'était Rivette, c'était toute la nouvelle vague. Et donc elle était au cœur de ça, et elle a eu cette chance extraordinaire. Elle a fait donc le film de Chabrol en tant que comédienne, qui était le beau Serge. Et à ce moment-là, je crois que c'était Philippe de Broca qui était assistant de Chabrol. Il préparait un film qui s'appelait Les Jeux de l'amour. Et Les Jeux de l'amour, il n'arrivait pas à trouver son personnage. Et un jour, elle lui dit, moi, je connais un comédien formidable qui serait exactement le personnage, c'est Jean-Pierre Cassel. Et Jean-Pierre a fait le rôle. Et dans les projections privées, ça avait autant de succès qu'à bout de souffle. Ça a été formidable. Et Gérard et Michel lui ont dit, mais est-ce que tu accepterais qu'on s'occupe de toi ? Jean-Pierre a dit, bah oui, j'accepte. Alors qu'il avait des propositions de tous les plus grands agents de l'époque, les agents en place, alors que là, c'était une agence qui débutait. Ce qui fait qu'avec Jean-Pierre Cassel, ils ont tout de suite eu un élément qui leur a permis d'aborder les producteurs. Et en l'espace de 10 ans, c'est là, moi, où je suis entré avec eux, parce que j'avais continué à être comédien pendant 10 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris l'appellation Art Média et que ça s'est installé rue Marbeuf. Voilà.
J'étais très jeune. J'avais... Je revenais du service militaire, en fait. Et j'étais très ami avec Françoise Arnoul, qui à l'époque était l'amie de Gérard Lebovici. Et
Jean-Louis Lévy.
Elle m'avait dit un jour, écoute, il faudrait que tu rencontres un mec absolument... étonnant, je pense que vous êtes fait pour vous rencontrer, pour travailler ensemble. Il s'appelle Gérard Lebovici. Eh bien oui, c'était vrai, ça a été immédiat. Il a tout de suite souhaité que je travaille pour lui. Et j'ai commencé par faire la comptabilité de Gérard Lebovici, qui commençait à devenir agent artistique, impresario. Et en même temps, pour pouvoir finir les fins de mois, Gérard Lebovici faisait commerce de crins et soies. C'est pour ça que on était des agents qui d'abord vendaient des brosses avant de nous occuper d'artistes, notamment d'acteurs. Parce que le métier d'agent artistique d'impresario à cette époque était constitué essentiellement de la représentation d'acteurs. Et lui a été un novateur absolu, puisqu'il a compris avant tout le monde que pour pouvoir maîtriser, disons, le spectre artistique dans toute l'ampleur de sa création, il fallait représenter les auteurs, les metteurs en scène, et que les acteurs viendraient obligatoirement, puisque la source, il fallait la représenter au départ et non pas être à la merci des autres, ce qui... donnerait, c'était sa pensée, ce qui donnerait à l'agent artistique un pouvoir qu'il n'avait jamais eu. Ce qui fut le cas.
Alors il y avait Bernheim et Simura. Et puis il y avait aussi la William Morris, mais la William Morris a disparu. Donc Bernheim, il a voulu le reprendre parce qu'il y avait une organisation extraordinaire, il y avait un carnet d'adresses extraordinaire et tout. Donc il a repris Bernheim, qu'il a dû payer en plusieurs années. Et il a repris Simura à condition que Jean-Paul Belmondo, qui était chez Simura, accepte de venir. Jean-Paul a accepté. Et ça a été une rencontre formidable avec Gérard parce qu'ils se sont formidablement entendus. Et moi, j'ai dit à Gérard, bon, je veux bien travailler avec vous. Mais Gérard et Jean-Louis Lévy m'ont laissé faire ce que je voulais. Voilà. Et puis, je suis tombé à un moment donné, effectivement, où il y avait un changement de génération qui arrivait. De Vert, Adjani, Depardieu, Miu Miu. Coluche, dont je me suis occupé un peu au début, avant qu'il fasse vraiment du music-hall. Dussolier, Villeray, Balmer, Nathalie Baye. Il y a aussi... donc, il y avait Truffaut, il y avait René, il y avait... La rencontre de Gérard avec François Truffaut, bon, je pense qu'il l'avait rencontré quelquefois, il s'était peut-être serré la main, mais enfin, il ne le connaissait pas. Et moi, je me suis marié en 1961. Je suis donc marié avec Marie Dubois, et le témoin de mariage de Marie, c'était François Truffaut, parce qu'il s'était connu quand elle avait fait Tirer sur le pianiste, et Gérard était mon témoin.
J'ai dû le rencontrer dans le milieu des années 60. Enfin, et on avait déjà plaisanter ensemble parce que il s'était amusé à me dire que je me débrouillais assez mal dans le cinéma et sous-entendu et avec un sourire en coin de me dire que si je rejoignais son équipe, ben j'aurais beaucoup plus de possibilités.
Alain Resnais.
Ensuite, alors là, je peux dire que Gérard Lebovici a eu une influence énorme sur mon destin, puisque j'avais fait un film qui est sorti en 1968 et qui avait rencontré assez peu de spectateurs et un assez mauvais accueil de la presse. Donc, je me suis trouvé en 69 sans travail, en 70 sans travail, en 71 sans travail, et que j'ai commencé à croire que c'était vraiment terminé, quoi. Enfin, que je ne savais pas où j'allais aller, mais j'étais dans une situation totalement bloquée professionnellement, quoi. Plus aucune offre de producteur, rien. C'est là où Gérard Lebovici m'a refait des propositions et que, en effet, il est arrivé à m'imposer, on peut dire, comme metteur en scène sur un projet qu'il avait avec Ariane Film et qui s'est appelé Stavisky, trois points, oui. Et ce qui m'a permis donc de redémarrer dans le métier, quoi. Mais je veux dire que sans lui, peut-être que j'aurais complètement été obligé d'arrêter de faire du cinéma. Pourquoi avait-il décidé, parce que je parle bien d'une décision, que je devais faire des films? Bon, et puis là, il n'y avait pas à discuter. Si on lui répondait, mais les films de Resnais sont très difficiles à comprendre pour les spectateurs, il a un public très restreint et tout ça, il balayait ça de la main et d'un grommelot en même temps, et un peu bourru comme ça. Et puis, non, c'était décidé et... je veux dire que le résultat soit une réussite ou un échec importait peu si le film lui plaisait, oui. Mais évidemment, il s'amusait aussi beaucoup. Je me souviens que pour un film de Jean Gruau, qui s'appelait « Mon oncle d'Amérique », je lui avais dit « Bon, ben alors pour les deux héros, j'ai choisi Nicole Garcia et Roger Pierre. » Et là, il était... Enfin, il est vraiment parti d'un grand éclat de rire. Et il a été déclaré un peu au bureau et à ses collaborateurs. Vous vous rendez compte? Je lui donne Delon et Adjani et il me répond Roger Pierre et Nicole Garcia. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il a immédiatement pris contact et m'a soutenu dans ce choix après. Et... j'avais autant envie de le rencontrer pour parler livre, spectacle, amitié, que cinéma, oui, bien sûr, et que pour parler travail. C'était favoriser des films. Peut-être que, oui, il aurait été un producteur, un peu comme certains grands producteurs américains, quoi. Les Elnick, les Sukor, les Salberg, enfin, qui participaient directement au film, quoi. D'ailleurs, on peut dire que être agent ou impresario l'a amusé pendant 3 ou 4 ans, mais que ensuite ce qui l'intéressait, c'était d'éditer des auteurs connus ou inconnus, vivants ou disparus d'ailleurs, et que sa maison d'édition Champ Libre, c'était ce qui lui importait le plus. Alors il profitait, à mon avis, d'Artmedia pour pouvoir perdre tout l'argent nécessaire dans l'édition de beaux livres ou de textes qu'il estimait très importants, quoi, comme ceux de Simon Lès, par exemple.
Mais si vous voulez bien, mettons un peu d'ordre dans nos idées. À qui nous adressons-nous? À l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant? Le petit de l'homme. Et qu'est-ce que l'homme? Excellente question.
Est-il bon? Est-il méchant?
Question idiote.
Nous sommes à des années-lumière de notre axe de travail.
Very good.
En effet.
Il faut donc repartir à zéro.
Vous l'avez déjà dit.
Eh bien, je le répète.
Ah, oh, bon, si on allait se coucher.
L'homme, ce que nous nommons l'homme. L'homme civilisé, c'est l'exploiteur exploité. Supprimez l'exploitation et vous supprimez l'homme.
Je suis le gérant d'Artmedia, Bertrand de l'Abbé donc. J'ai l'honneur d'avoir succédé à Gérard Lebovici. Je crois que j'ai intégré l'équipe Artmedia en 73, donc ça devait être 73-72, entre les choses comme ça. Hein. Je suis devenu à l'époque, je crois, l'agent de Martin Lamotte, Dominique Lavanant, puis de Catherine Deneuve. C'est d'ailleurs à cette époque-là où concluait mon engagement qu'un jour, on avait une collaboratrice passer en courant avec du sang dans le visage, sur la tête, et on était hold-upé par un gangster célèbre de l'époque qui s'appelait Villoquet. Et d'un seul coup, avec Gérard Lebovici, on s'est retrouvé en face de Villoquet avec un pistolet. Il ne fait pas les cons, sinon je tire. À un moment, il y a eu un cri. Il s'est tourné, la balle est partie. Et la balle est allée dans le ventre d'un autre gangster. Et à ce moment-là, ils sont partis en vitesse, puisqu'ils avaient un blessé grave qui a été arrêté par la police. Et après, c'est une épreuve, parce qu'on est très traumatisé pendant quelques heures, alors qu'on n'a rien eu et tout. C'est passé près, quoi, voilà. Très près. Et au fur et à mesure, donc, j'ai construit Artmedia Variété. Et puis après, sans doute contaminé par tous les autres agents que je rencontrais, je me suis intéressé au cinéma. Et à partir de là, j'ai mené les deux activités de front. Donc depuis avril 90, j'ai l'honneur de diriger seul Artmedia. Et aujourd'hui, donc, Artmedia, malgré les créations de d'autres agences et tout, reste... il en aurait été heureux, leader plus que jamais. Il m'avait demandé de rencontrer Renaud, et à l'époque, il avait beaucoup d'admiration pour le combat de Mesrine. Et à un moment, il a demandé à Renaud d'écrire une chanson sur Mesrine, et Renaud ne l'a pas fait immédiatement. Et j'avais interrogé Renaud là-dessus en me disant je ne peux pas faire une chanson sur commande, j'ai jamais fait une chanson sur commande, mais c'est une chose qui me trotte dans la tête, mais je ne rendrai pas une copie à Gérard Lebovici comme ça du jour au lendemain parce qu'il me le demande. Il a pris ombrage de cette attitude de Renaud, lui a écrit des lettres que vous pouvez retrouver donc dans la correspondance de Gérard Lebovici. Entre temps d'ailleurs, il avait écrit une chanson en pensant au sujet que voulait lui imposer Gérard, qui s'appelle « Où ai-je mis mon flingue ?» ou « Le nom, j'ai pas où », une chose comme ça. Et c'est dire combien Gérard n'a jamais, je crois qu'il n'a jamais pris une décision en fonction de son intérêt. C'était pour d'autres raisons que celle-là.
Ah oui, il y a le garde-lion
pour les cadavres. Oui, oui. Quand on pouvait sortir et tout, c'était foutu, là.
Bon, qu'est-ce que vous prenez? Asseyez-vous.
Ah, allez, une bière belge. C'est ce que j'ai vu qu'il y avait les Belges en face. Je vais boire de la Belgique. Si, j'ai de la bière belge. Non, j'ai de la belge, hein.
Bœuf.
bon, ben, là, c'est bon.
Alors, les Bovici, c'est très simple, c'est l'intermédiaire par le, on peut dire, le couple théorique ou le couple stratégique, Raphaël Sorin, Gérard Guégan. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Gérard Les Bovici. Guégan, qui était copain, qui avait rencontré déjà Les Bovici, et c'est Guégan Sorin qui crée l'édition Champ Libre. Ah. Et un an après, ou un an et demi après, Raphaël me dit, écoute, qu'est-ce qu'on préfère comme projet ? Alors, ben, Nakoff propose une collection, et moi, je propose ma collection Projectoire.
Michel Giroux.
Pour ce qui me concerne, c'est-à-dire les 8 ans, on peut dire, hein, puisque c'est 72, 80, donc les 8 ans pour éditer 5 bouquins concernant donc Dada. Et pas du tout des livres, et ça, c'est, j'aimais bien ça chez les Beaux, chez Debord, pas des livres sur Dada, le énième livre sur Dada, que font toujours les gens de l'université des thèses, mais publier les documents. Après, on fera les livres. Il faut d'abord donner aux nouvelles générations ce que moi, je n'ai pas eu, ce que nous, on n'a pas eu. Ça, c'est capital. Comme ça, on dira moins de conneries. Hein, et puis, c'est publié aussi, non seulement Dada Berlin, le livre de Berrius, mais publié l'ensemble des écrits allemands de Dadazoff, le fondateur Dada Berlin, donc Raoul Haussmann. J'avais déjà publié donc, le Mac Dada. Hein, et du côté français, donc les écrits d'Ada avec Bégaud, donc de Raymond de Seigne. Et par Ornella Volta, les écrits complets de Satie. Les avant-gardes, Dada, à la limite futuriste, on aurait pu faire, constructiviste, mais surtout Dada constructiviste, ça c'était la vision de Debord. Bon, c'est pas la vision des Bovici. Les Bovici est un type formidable, qui a su faire de l'argent, qui était un acteur, qui n'a pas réussi à être acteur, il est devenu producteur. Et il a libéré quand même le cinéma, les réalisateurs et les acteurs. De l'esclavage. C'est-à-dire, leur a appris à devenir autonome. Ça, c'est quand même formidable. Mais, ce n'était pas lui la tête.
Gérard Le Bovici était très ami avec Georges Kejman. Et je crois que Kejman, à l'époque, était secrétaire de Mendès France. Et donc, c'était en 67, ça devait être en mars, quelque chose comme ça. Et Kejman demande à Gérard, il dit, bon, tu pourrais pas organiser un gala de music-hall. Et Gérard, le music-hall, à l'époque, il connaissait pas du tout, mais bon. Et il a réussi à réunir Jacques Brel, Serge Reggiani, qui avait pas encore vraiment commencé à chanter. Il y avait Marie Dubois qui présentait les numéros. Et d'ailleurs, c'est un souvenir terrible parce que c'était quand même une réunion politique. Et quand Marie est arrivée sur scène, c'était à poil.
Du débat démocratique.
Bon, on avait un standard qui était bloqué tous les jours, tellement nous avions d'appels pour organiser Sly, le film de Dobroka, et celui de Rapneau, et celui de Costa Gavras, et celui de Claude Zidi, et celui d'Henri Verneuil, et celui de, enfin bon, et celui de François Truffaut, et ça, bon, bref. Et puis arrive mai 68, et du jour au lendemain,
Jean-Louis Lévy,
silence. Silence complet. Plus un coup de téléphone. Bon, on essaie de prendre des contacts, on n'arrive à joindre personne. Et on se retrouve subitement dans une situation où, enfin, qui faisait absolument non seulement sourire, mais jubiler Gérard Le Bovici, alors qu'on courait peut-être à notre perte, puisque plus de chiffre d'affaires, plus de respect des contrats, tout était arrêté. Et ben, on était là le matin, on se regardait, on disait, bon, ben voilà, encore une journée, sans rien. Mais Gérard, toujours détendu, décontracté, c'était sa particularité, sa singularité d'ailleurs, c'est que quand les choses étaient difficiles et allaient mal, il était d'une humeur extraordinaire. Et il faisait plutôt la tronche quand les choses allaient bien. Et là, il faisait pas du tout la tronche, il était ravi, donc c'est que les choses allaient pas très bien. Et puis arrive fin mai, et bon, on vient au bureau et là, le standard a explosé. Et l'année 68 a été, au point de vue des résultats, peut-être la meilleure année que nous ayons connue.
La tête théorique, c'est Debord. Donc là, il y a un problème un jour ou l'autre. Et moi, j'ai jamais voulu rencontrer Debord avec les Bovici. Non, parce que c'est très bien, c'était pas la peine, ça sert à rien. Temps perdu. Je connais les Thaïs d'abord, on sait ce qu'il a fait. Donc, voilà, peut-être que c'était une idiotie. Mais de toute façon, j'étais embarqué avec Sorin et Guégan, et qui, eux, vraiment, ont fait champ libre. Parce que sans Sorin et Guégan, je ne dis pas qu'au début, il y avait Debord, hein, mais je dis que Debord était là après. Et quand le crack a eu lieu, Debord était certainement là très fort. Et après, c'était la bataille entre quand même le clan Sorin Guégan et les Bovici. Les Bovici disaient à l'argent, et Sorin Guégan disait, nous apportons les idées. Mais la position théorique, disons, on peut dire anarchisante ou anarchique de Guégan Sorin, n'était pas celle de Debord. Il y avait là quand même des frictions. Ah. Bon. Il y a eu le clash et ils ont fait le Sagittaire. Et à ce moment-là, ils m'ont demandé, moi, de venir au Sagittaire. Oh là là, entre les Bovici qui a l'argent, eux, et je vais faire partie de du groupuscule. J'ai pas envie, Nakoff non plus, je dis on reste là. Donc on est considéré comme des traîtres.
Ah, qu'est-ce qui se passe encore ? Cet enfant finira par mourir ici. On s'occupe de lui pour l'examiner, pour l'exhiber comme un mandat.
Écoutez-moi, c'est une dame. Ce garçon est inférieur à tous les enfants que nous avons ici. Il est au-dessous de l'animal.
La question n'est pas là. Ou plutôt, si même à l'animal, on s'occupe de lui, on essaie d'éduquer.
Vous croyez qu'il est capable d'éducation ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense seulement qu'il était inutile de l'arracher la vie qu'il menait en forêt, si c'est pour l'enfermer ici, comme pour le punir d'avoir déçu la curiosité des Parisiens, parce que finalement, c'est ça qu'on lui reproche.
Écoutez-moi, pour moi, c'est un idiot.
Si vous voulez raconter un petit peu la vie de Gérard Lebovici, je crois qu'il faut bien savoir que Gérard Lebovici était un homme, je ne sais pas... je ne sais plus dans quel film américain avec Robert Taylor, il y a la femme de la nuit et la femme du jour. Eh bien, on pourrait dire que Gérard Lebovici était un peu cet homme-là. Il avait deux vies. Il avait la vie avec les acteurs, les créateurs, qui était la vie de Payette. Et puis, il avait une vie plus secrète, qui était certainement beaucoup plus engagée et beaucoup plus, en tous les cas, très mystérieuse. Ben, je suis Martine Baraquet et on va dire plus rapidement, je suis monteuse de films. Et j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, des plus anciens, donc peut-être pas très connus aujourd'hui, comme Jean-Pierre Melville, Louis Malle, c'est François Truffaut beaucoup, quelques Américains comme Jerry Schatzberg et j'ai fait mes débuts comme chef monteuse. Le deuxième film que j'ai fait comme chef monteuse est avec plus un philosophe qu'un cinéaste, puisque c'était avec Guy Debord. Les films de François, j'étais monteuse son, je faisais l'assistanat, le montage son. Je n'ai commencé à monter les films de François qu'en 1976 avec L'homme qui aimait les femmes. Le temps pour moi est marqué par les films, donc je sais que c'est pendant le montage de La Nuit américaine où Suzanne Schiffman, qui avait déjà travaillé, qui était en train de travailler sur une recherche de documents pour la Société du spectacle, m'a dit « ce serait bien que tu travailles avec Guy Debord, est-ce que ça t'intéresserait ? Je ne sais pas, je crois que... Gérard Lebovici a l'intention de t'en parler. » Donc voilà, effectivement, quelques semaines après, j'ai eu un appel de la secrétaire de Gérard Lebovici pour rencontrer Gérard Lebovici, qui allait me parler d'un projet qui était très mystérieux. Alors évidemment, le rendez-vous est donné le soir après la journée après le travail, de façon à ce que plus personne ne soit dans ses bureaux. C'était comme un rendez-vous d'amour ou un rendez-vous en tous les cas secret. Je ne devais en parler à personne. C'est d'abord lui qui irait au rendez-vous avec Guy Debord et qui ensuite me ferait part que moi je peux venir, je peux suivre. Bon, voilà, c'était, vous savez, c'est sous les Condés, c'était souvent comme ça. Hein. Eh bien, on était un peu dans cette atmosphère. Donc, on a pris rendez-vous pour une première projection. Et là, à cette projection, on a regardé, je ne sais pas, il y avait, on a regardé pendant 2 heures que des documents d'actualité. Mais alors, ces documents d'actualité, pour ceux qui n'ont pas vu la Société du spectacle, c'est un petit peu abstrait comme définition, mais ça allait de Salingro en passant par Marilyn Monroe chantant devant le président, en passant devant le dernier défilé de Chanel, la guerre de 40, les premières vaches qu'on élevait en batterie. Enfin, c'était monstrueux. Il fallait que je trouve ces documents, ces films, mais sans dire pour qui c'était. Parce que ils n'avaient pas l'intention, on ne pouvait pas s'offrir le luxe ni le temps de demander les droits pour avoir la projection et ensuite éventuellement de faire des fil à fil et de faire des contre-types et pour en avoir la jouissance. Donc moi, j'inventais des histoires auprès des distributeurs. Je disais que je travaillais avec un réalisateur qui était en Italie ou qui était, selon les jours, en Espagne ou en voyage en province et j'avais besoin de louer une copie. Et c'est vrai que avec la réputation que j'avais déjà dans le métier et la réputation des films du Carrosse et de Gérard Lebovici, Gérard Lebovici était dans l'ombre. Personne ne savait que c'était Gérard Lebovici qui produisait. Il n'y avait que des très peu de personnes, quoi. Suzanne Schiffman, moi et les films du Carrosse. Mais sinon, personne ne le savait. Il y avait aussi ce que Gérard Lebovici avait préparé. C'était si on avait, lors de la projection en public de ce film, des procès pour citation, je veux dire, pour montrer des extraits de films. Il avait l'intention de faire une procédure avec Kejman pour droit de citation comme en littérature, les mêmes droits. Le film date de 73, ouais. Donc tout s'est fait en même temps dans la foulée. Ouais. Je venais de me séparer de mon premier compagnon qui était un homme très cultivé, artiste peintre et très vivant très en marge et qui était très très impressionné et très intéressé par le mouvement des internationales situationnistes et qui à maintes reprises avait essayer, avec moi à ses côtés, de rentrer en contact avec Guy Debord. Et pour ce faire, on allait rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, puisque c'était le siège de la revue, et on tombait toujours devant un cafetier qui nous répondait « Ah non, 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 c'est pas ici. Guy Debord, non, on ne connaît pas. » Bon. Et bien longtemps après, quand la confiance est intervenue entre nous et que l'après-midi, quand il était fatigué, on s'arrêtait, on allait boire une bière au bord de la Marne, dans un petit bistrot, puisqu'on montait au studio de Joinville à l'époque et qu'ils étaient situés au bord de la Marne. Et là, un beau jour, je lui ai dit que j'aimerais bien organiser un dîner avec mon ex-compagnon et lui. Alors, il était très intrigué parce qu'il disait « Ah bon ?» Ah bon, votre ex-compagnon, Martine. Pour moi, vous êtes une toute petite jeune fille. Le dîner a eu lieu et Guy a ri comme un fou. Et il a expliqué pourquoi jamais ils n'ont pu se rencontrer, parce que le cafetier disait « Guy Debord, vous dites ?»« Ah, attendez, non, non. » Alors lui, Guy Debord, regardait vers la personne qui le cherchait, et selon la tête de la personne, il faisait un signe positif ou négatif. Et en l'occurrence, pour mon pauvre compagnon, ça a toujours été « non ». Quand j'ai rencontré Guy Debord, il était très curieux de Gérard, très curieux de François Truffaut, mais un petit peu comme on l'est, quoi, comme ça. Hein, pas... Oui, il était très intrigué par Gérard, Guy, puisqu'il disait « Je sais qu'il a commencé en vendant des brosses à dents, en faisant du porte-à-porte. » Et il était très intrigué de ça. C'est tout ce que... Mais c'est presque une histoire d'amour avec entre Gérard Lebovici et Guy Debord, parce que en général un producteur va faire des folies pour une actrice. Là, c'est pour un auteur, et quel auteur, quel philosophe. Mais aller jusqu'à produire, acheter des salles de cinéma et ne sortir que ces films-là, c'est pire qu'une... C'est la danseuse la plus chère au monde.
En contact avec les éditions Champs Libres par l'intermédiaire de Floriana Lebovici, qui était elle-même une vieille amie de Costas Papayohannou.
Alain Pons.
Papayohannou, de son vivant, avait publié aux éditions Champs Libres, ou plus exactement avait postfacé la traduction d'un certain nombre d'ouvrages de Hegel, dont il était sans doute un des meilleurs spécialistes. Après sa disparition, Madame Lebovici et moi-même, nous avons eu donc l'idée de rassembler les textes sous le titre « La consécration de l'histoire » qu'il avait publié dans la revue Diogène. Et l'intérêt de ces textes, c'était que précisément, ils avaient une valeur proprement philosophique. Papayohannou est bon dans la mémoire de ses lecteurs est resté essentiellement comme un grand exégète de Marx. Il a présenté justement de Marx une lecture qui à l'époque était extrêmement neuve, qui allait même prenait un peu à contre-pied les tendances générales de la marxologie. Il est certain que, si vous voulez, ces travaux sur les travaux de Papayohannou sur Marx, s'intégraient assez bien dans le style général de ce que publiait Champs Libres, non pas que, si vous voulez, il se rattacha en aucune manière au situationnisme de Bord, etc., mais avec Papayohannou, on avait affaire à une, si vous voulez, à une relecture, disons, de Marx. Bon, ça, je crois que c'est une chose sur laquelle il faut insister. Ça peut nous sembler maintenant aller de soi, mais ça n'allait pas tellement de soi dans ces années, si vous voulez. J'ai pensé justement à ce livre de Castiglione, le livre du courtisan, qui m'a toujours fasciné, si vous voulez, par sa, sa beauté littéraire, puis aussi par son importance. Il s'agit d'un texte du tout début du XVIe siècle qui dresse en quelque sorte le portrait, si vous voulez, du parfait courtisan. Mais derrière le portrait du parfait courtisan, c'est le parfait homme de la Renaissance, n'est-ce pas? Bon, il se trouvait que ce livre n'avait plus été traduit en français depuis presque 5 siècles. Après l'intérêt qu'avait suscité le courtisan de Castiglione, Floriana Lebovici m'avait demandé si j'avais d'autres idées de traduction, et j'ai pensé tout de suite au Ricordi de Guichardin. Le livre avait été conçu et même, on peut dire, réalisé au moment même où Floriana Lebovici est morte, et un de ses fils, justement, Lorenzo, a créé une maison d'édition qui s'appelle Ivrea, et ça a été une de ses premières publications, n'est-ce pas, bon, de mener à bien la publication de cette traduction d'Ericordi que j'avais faite. Ne vous étonnez pas qu'on ne connaisse point les événements des époques passées, ni ceux qui se produisent dans les provinces ou les lieux éloignés. Car, à bien y regarder, on n'a pas vraiment connaissance des choses présentes, ni de celles qui se produisent journellement dans une même cité. Et il y a souvent, entre le palais et la place publique, un brouillard si dense ou un mur si épais que, l'œil des hommes n'y pouvant pénétrer, le peuple en sait autant sur ce que fait celui qui gouverne ou sur les raisons qui le font agir que sur ce qui se passe en Inde. C'est pourquoi le monde se remplit aisément d'opinions fausses et vaines.
Oui, on peut dire que c'était un héros, quoi, au sens...
Alain René.
Un peu de la fiction, quoi. Enfin, c'était un personnage qui sortait tout à fait de l'ordinaire. C'était... un aventurier de la création. Et c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et il savait très bien s'amuser des sautes d'humeur qu'il pouvait y avoir dans des festivals de Cannes ou autres, des prises de position vis-à-vis de la compétition ou autres. Il avait l'air de partager la vie de l'adversaire pendant quelques minutes, et puis tout à coup, grande tirade, et l'adversaire était totalement mis sur le tapis, quoi. C'était aussi quelqu'un qui avait énormément de charme et qui savait à la fois vous protéger et vous permettre de... Oui, de vous exprimer complètement. Enfin, je y avais, parce que là, je parle d'un Gérard Lebovici, comment dire, manipulateur. Non, c'était pas. Il n'y avait évidemment pas que ça. C'était aussi quelqu'un qui savait vous mettre en confiance, quoi, et qui vous poussait à l'action d'une manière très. Oui, j'ai presque envie de dire très tendre, quoi. Enfin, bref, il avait, alors on va dire, charisme, magnétisme. D'ailleurs, il avait travaillé au Cours Simon, donc il avait envisagé un moment d'être acteur. Il avait envisagé aussi d'être violoniste, et il savait jouer du violon. Je ne sais pas pourquoi il a abandonné, il ne s'est jamais confié là-dessus. Mais je me souviens... de discussion sur la musique, où il était très catégorique. Il y avait justement les suites de Bach pour violon ou violoncelle seul, qu'il admettait et qu'il appréciait. Et après, il avait tendance à dire que la musique s'était arrêtée et que plus rien de valable n'avait été écrit. Oui, on va évidemment que si on fait une comparaison animale, on peut parler d'un gros chat, d'un matou, il avait cette grâce des chats qui sont très sûrs d'eux et qui ont décidé qu'ils passeraient la journée sur un fauteuil et que personne n'aurait le droit de s'asseoir sur ce fauteuil, mais avec l'élégance du chat et le dandysme du chat. Et il n'était pas question de lui résister, à mon avis.
On a revu avec Guillaume hier soir La vie est un roman et puis L'amour à mort qui s'ouvre par Gérard Lebovici présente.
En effet, il y a eu ce moment, on peut dire, tragique où la veille du premier jour de tournage, on a appris sa mort, ou son assassinat plutôt. Et il y a eu cette décision de est-ce qu'on arrête le film, est-ce qu'on le reporte et tout. Et j'ai parlé à ce moment-là avec Jean-Louis Livy et Floriana, la femme de Gérard Lebovici, et qui m'a dit non, la décision de Gérard est très claire, la date du premier jour de tournage est fixée, vous ne changez rien et vous commencez. Vous imaginez dans quelle atmosphère a pu se dérouler ce premier jour, parce que les acteurs l'aimaient beaucoup aussi, le producteur aussi, enfin bon, on était tous dans un état de second, traumatisé, comme on dit à la radio, mais... Et c'est vrai que à chaque fois que je vois le générique, en effet, le caractère d'ailleurs que j'avais choisi pour le générique et la couleur et la musique de Enze à ce moment-là, ça me fait toujours. Ça me donne une grande, grande émotion, quoi. Et on a tous les trois choisi justement que de dire, étant donné le scénario, justement, Gérard Lebovici présente était ce qui était le plus courageux, quoi, justement, de ne pas faire une espèce de sentimentalité inutile et que. Ça le représentait mieux, étant donné la manière dont il s'était impliqué dans ce projet. Oui.
Est-ce que vous pourriez nous parler de l'énergie avec laquelle il soutenait vos films, sur des paris risqués, etc.
Comme ça. Il me la cachait, son énergie. Mmh. Mais je voyais bien qu'il réussissait. Quoi. Mmh. C'est ça que dont je peux témoigner. Mmh. Mais il me cachait... nettement son action, quoi. Il la mettait jamais en avant, jamais en valeur. Il me dit jamais, il n'a dit j'ai eu beaucoup de mal à vous imposer dans tel projet ou des choses comme ça. Je ne l'ai su que 5 ans, 6 ans après. Et... Non, il me laisse. Il avait cette grande élégance de me laisser dans une ignorance complète de ses efforts, oui.
Vous disiez tout à l'heure que vous auriez bien aimé savoir ce qu'il avait pensé de L'amour à mort. Qu'est-ce qu'il vous avait dit à la suite de la projection de La vie est un roman, de la première projection?
Parce que Personne ne l'avait vu. Bon, il était une des premières personnes à voir le film. Il était venu au laboratoire, je me souviens. Et il en était sorti ravi, oui, en effet. Je me souviens de sa phrase. Il m'a dit « C'est Toscanini, c'est Toscanini. »
On a été accusé par Pierre Bromberger.
Jean-Louis Lévy.
Mais bon, c'était tout simple. C'est que on préférait, sur certains films difficiles à monter, d'ailleurs en général difficiles à monter, transformer notre commission par un intérêt sur le film. Bon, un intérêt qui ne pouvait jamais aller très loin, puisque la commission que nous percevions était de 10% sur les rémunérations des acteurs et des metteurs en scène et des auteurs. Donc ça ne pouvait pas aller très haut. Et nous ne voulions pas nous cacher, en preuve en était, c'est que les deux sociétés de production étaient dirigées par nos femmes respectives. Donc avec nos noms, on n'était pas. Et donc on nous a attaqués et nous avons été devant ce qu'on peut appeler un grand jury. Ça amusait beaucoup Gérard en même temps. Ça, c'était des choses qui l'amusaient. Ces conflits-là, ça l'amusait. Et ce grand jury était composé à peu près de tous les acteurs, entre guillemets, de la profession. Il y avait les producteurs, les distributeurs, les agents d'acteurs. Donc, ils s'en sont sortis en nous donnant un blâme. Et donc, évidemment, nous avons arrêté cette manière de procéder. Mais comme il s'est avéré quelques années plus tard que cette manière de procéder était quand même utile pour que certains films se fassent, elle est maintenant tout à fait légale. Et aujourd'hui, nous ferions cela. Ce serait béni par la commission ad hoc. Voilà. Mais enfin, ça l'avait beaucoup amusé, Gérard. Mais enfin, ça a eu quand même une conséquence, parce que la conséquence suivante, c'est que nous avons séparé nos activités. Et Gérard m'a dit, écoute, bon, je sais que tu as envie d'être producteur. Je le suis devenu. C'était 81. Donc je le suis devenu 18 ans après, mais enfin, il n'est jamais trop tard. Il m'a dit, je sais que tu veux devenir producteur, mais enfin, je pense que c'est moi qui vais partir, qui vais produire et qui vais distribuer. Et il a créé 3A, qui est devenu la première, comme par hasard, le premier distributeur français, premier grand producteur. Enfin bon, évidemment, il a inquiété les Américains, il a inquiété tout le monde. C'était le meilleur de tous, il était normal qu'il réussisse tout de suite, quoi.
Robert, éteignez-moi tout ça. Robert, vous avez certainement quelque chose à nous dire. Chut. Chut. Robert, voulez-vous rester, je vous prie?
Oui, tu dis rien.
Il est agaçant à la fin.
Tu parles ou merde?
On voudrait avoir votre opinion.
Parlez sans crainte.
Alors parlez!
Alors, si je comprends bien, je suis en état d'arrestation.
J'ai bien entendu. Arrestation? Autrement dit, vous nous traitez de flics?
Mes amis, selon M. Robert Dufresne, les éducateurs sont des flics.
C'est demain que vous devez faire votre communication. Je vous serai très obligé, Robert, de m'en soumettre le texte.
J'avais l'intention d'improviser.
C'est de la provocation! Robert! Je vous ordonne de rester! Il s'est exclu lui-même!
Voilà, alors Lebovici, là-dessus, il n'y a aucun problème. S'il en publie ce qu'il lui considère comme essentiel, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il met l'argent. C'est-à-dire, les livres ont été faits d'une manière formidable. Et s'il faut 3 matériaux, si ça coûte plus cher, de couverture, formidable et tout, pas de problème. Voilà. Il aurait fallu qu'il ne meure pas, qu'il soit moins... Il a un côté frappé. Bon, dans ce domaine-là, il ne faut pas être frappé. Hein. Il faut être illuminé, je veux bien, mais pas frappé. Et pas provoquer la mafia ou la police. Ça ne sert à rien, à rien, à rien. L'histoire de Messrine, c'est intéressant. Il ne faut pas crever, il ne faut pas crever bêtement, là. Il a pensé qu'il ferait la révolution. Grotesque. C'est grotesque. On ne peut pas la révolution comme ça. Il a été assassiné. Alors peut-être que dans son mythe, à lui, dans sa mythologie personnelle, c'était bon. Mesrine. Il admirait Mesrine. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, hein? C'est du romantisme, c'est du 19e siècle. Hein? Il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là chez les Beaux, hein, cette rêverie. Et puis entre-temps, en même temps, comme les Beauvici ne publiaient pas d'images, très peu, j'avais une collection chaîne, œil absolu, pour publier Haussmann en images, pour publier Duchamp en images. Ça aurait été fantastique, vous imaginez, Champ Libre. Oh là là, oh là, il y avait tout. Là, un vrai mécène. Hein. Et il gagnait, en plus. Il investissait, bah oui, mais là, il ne fallait pas faire le con, il ne fallait pas mourir. Et aujourd'hui, les Beauvici devenaient l'éditeur number one dans le monde. Hein. Toutes les avant-gardes, les années 20 et les années 60, 70. Il faisait un malheur.
C'est bon là.
Donc il part.
Je vous laisse gérer.
Vous n'avez même pas eu le temps de voir.
Non, mais je vais le voir, là, c'est bon, c'est bon.
J'ai été en contact avec Gérard Le Beauvici, avec les éditions. Champ Libre en 71.
Andrei Boris Nakov.
À ce moment-là, Raphaël Sorin, que je connaissais de mes amitiés artistiques à New York, m'avait proposé de travailler avec les éditions Champ Libre. Il y avait donc Raphaël Sorin, évidemment, Gérard Guégan et Gérard Le Beauvici. J'ai rencontré ces personnes. Il y avait, je pense, Le Soir aussi, qui était une des chevilles ouvrières, qui était maquettiste, mais qui avait des idées sur les programmes de la maison d'édition, me semble-t-il. Très peu de temps après, j'ai signé mon premier contrat. Ça devait être juin 71. Le premier livre qui était des textes analytiques, mais de programme quand même, d'un jeune historien d'art et critique constructiviste qui s'appelait Tarabukin et qui à l'époque a été pratiquement inconnu, je veux dire, non seulement en France, mais où que ce soit, on n'avait pas publié de textes de lui. Et la deuxième partie de ce volume devait être constitué par un certain nombre de textes d'historiens de l'art. Et le volume est sorti. Et à ma grande surprise, il a eu beaucoup de succès. Surtout auprès des artistes contemporains à l'époque qui l'ont, je pense, très bien reçu. Voilà. Qu'est-ce qui a été publié? Surtout, ce qui a vraiment été une des réussites de la maison, c'était les écrits de Malevitch que j'ai publié en 75. Là, on s'entendait très bien aussi, c'était que ces livres soient accessibles. On faisait pas des livres pour, on faisait pas des livres pour réussir autre chose que pour les faire. C'était comme si on réalisait, excusez-moi, c'est peut-être un peu grandiloquent ce que je veux dire, mais comme si on faisait une œuvre, ou une œuvre d'art, ou on réalisait quelque chose. D'accord? Il fallait que ça soit bien réalisé. Au moment de la décision qu'entreprit les bombes téléphonent, et on parle de, je sais pas, de certaines questions rapidement, hein, c'est une conversation très brève, et je dis au fait, quel est le prix que vous allez mettre sur le livre? Il me dit, on peut pas mettre un prix, il aurait fallu mettre un prix, vous voyez, 82 francs. Pour rentrer dans vos frais, quel est le prix que vous devez mettre? Oh oui, il fallait que ça dépasse les 80 francs, mais on peut pas. En 75, un livre à 80 francs, c'était très cher. Les livres valaient 20, 30, 50 maximum. C'était beaucoup d'argent, déjà, pour un livre. Mais je dis, mais vous pouvez pas publier à perte. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas logique, c'est pas raisonnable, c'est pas sain. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes pas là pour faire du mécénat. Il faut que ce bouquin, c'est pas une question de gain, mais il faut qu'il reflète quelque chose de réel. Et c'est là où nous sommes dans la vérité, je veux dire. Et il me dit, d'accord, faites-le à 78. je négocie avec lui. Et il dit, bah, d'accord, je vous l'accorde, en 78. Deuxième chose qui me vient à l'esprit, toujours avec le Malevitch, était un article qui est paru dans Le Monde à la fin de l'été, ou quelque part l'été 75, et où il était question de deux livres les plus volés à la Une. Vous savez, à l'époque, la Une était la librairie à Paris. Ils avaient fait une vitrine avec le Malevitch, j'avais prêté des documents. Et parmi les deux livres les plus volés à la Une, c'était le Malevitch. Ça m'a fait très plaisir, évidemment, parce que je trouvais ça excellent. Ça, j'étais ravi qu'il ait eu ce succès. Finalement, c'est bien, c'est que les gens le voulaient. Si on n'a pas volé un livre, on n'est pas un vrai lecteur, Justine. Mais bien, il ne faut pas en voler trop, peut-être. Mais si on n'a pas volé un livre, on n'est pas un vrai lecteur. Pour vous dire le souci de qualité qu'on avait là, il y avait un excellent traducteur de russe qui était Michel Petris, qui malheureusement n'est plus de ce monde, avec lequel j'avais des rapports très sympathiques, qui était un personnage haute couleur et assez fou. Mais qui avait des qualités de traducteur tout à fait exceptionnelles. Il s'entraînait tous les jours en traduisant des poésies le matin, comme on fait sa gymnastique pour traduire bien. Et il était mordu par la traduction et il traduisait très bien. Donc, il traduisait de l'anglais et surtout du russe, Michel. Pour revenir à la qualité de la traduction, qui était un souci de la maison, il travaillait jour et nuit, lui. C'était vraiment... le traducteur maison qui traduisait tout. Donc, Khlebnikov n'a pas été fait. Il y avait d'autres textes futuristes qui n'ont pas été réalisés, et textes du début des années 20 qui n'ont pas vu le jour, mais il y en a eu quand même certains qui ont été publiés, comme Shklovsky, La marche du cheval, et moi, qui a été publié en 73. Ce livre a été traduit très vite. À l'époque, moi, j'avais beaucoup d'autres choses à publier ailleurs. J'ai pas eu le temps même. J'ai relu la traduction avec Michel Petris. À un certain moment, on a parlé de certains détails, mais ça s'est arrêté là. Je dirais que c'est de ma faute un peu. C'est parce que j'ai pas eu le temps. Mais je me suis rattrapé avec une autre publication de Shklovsky qui est Résurrection du mot, qui est un texte que j'adore et qui me paraît très beau et très important, que j'ai sorti beaucoup plus tard, en 85, Résurrection du mot. Le texte commence ainsi. La création poétique la plus ancienne accomplie par l'homme fut la création des mots. Actuellement, les mots sont morts et la langue est semblable à un cimetière, alors que le mot nouveau-né était vivement imagé. On attache trop peu d'attention à la mort des formes de l'art. On oppose avec trop de légèreté l'ancien au nouveau, sans se demander s'il est bien encore vivant ou s'il a déjà disparu. Comme disparaît le bruit de la mer pour ceux qui vivent sur son rivage, comme a disparu pour nous la rumeur aux mille voix de la ville, comme disparaît de notre conscience tout ce qui est habituel, trop connu.
Dada, oh Dada, quelle figure, si triste, si gaie, regarde-toi dans la glace. Non, non, ne te regarde pas. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est laid? Qu'est-ce que c'est grand, fort, faible? Qu'est-ce que c'est carpentier, renom, phoque? Connais pas. Qu'est-ce que c'est moi? Connais pas. Connais pas, connais pas, connais pas. C'est un réel plaisir de parler de Rimmon. Il a suivi la réalisation du premier volume de Dada. Dans un petit texte d'accompagnement, j'avais utilisé une expression qui a fait un peu réagir en disant que je n'étais pas sûr qu'on pouvait parler de l'œuvre de Rimmon Seyne dans le sens que l'on donne habituellement cette expression. Je voulais dire par là, non pas certes que je ne considérais pas Rimmon Seyne comme un auteur à part entière et comme un auteur d'une extrême importance, mais que le mot œuvre prend souvent des perspectives scolaires, des perspectives didactiques, des perspectives...
Jean-Pierre Bégaud.
Liées à des systèmes, ce qui était bien différent de ce qui a dirigé la démarche et l'écriture de Rimmon. De la même manière que cette rencontre avec Georges Raymond de Seigne En ce qui concerne Arthur Cravant, la rencontre avec sa fille a été la rencontre qui a permis cette mise au point des œuvres de Cravant. La rencontre s'est passée par l'intermédiaire, l'éditeur, enfin, qui était donc, celle qui a continué l'œuvre de Gérard Lebovici, sa femme, avec la fille d'Arthur Cravant, Fabienne Bénédicte, et qui a été d'accord avec ce projet et avec la publication, par exemple, de ses lettres. Mexico City, 31 décembre 1917. Cher Mina, je t'écris encore une carte aujourd'hui. C'est la seule énergie qui me reste. Je pourrais t'écrire pendant des heures et des heures et des heures que la vie est horrible. Je tâche de me comprendre et sois bonne. N'est-ce pas qu'il y a eu des bons moments? Mais ce n'était rien à cause du malentendu. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas eu la même conduite. Ça aurait été quelque chose au-dessus de la terre. Télégraphie. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. Frost n'aura pas souffert, mais moi. Mourir de l'âme, c'est 10 000 fois pire que le cancer. Et je suis bien perdu. Si tu savais comme je me sens pur, j'ai déjà mes ailes et tout ça sera perdu. Dis-moi que ce n'est pas possible. C'est ma faute, c'est ma faute. Adieu, Mina. Pense à tout ce que je t'écris dans mes lettres. Les reçois-tu? Je t'écris tous les jours. Bonne et heureuse année. Ne travaille pas trop. Viens te reposer. Adieu, adieu, adieu. Tout, tout. La vie est atroce. Mina Loy a pris le bateau très peu de temps, je crois, après cette lettre, et a rejoint Cravant au Mexique. Ça a été le dernier moment de la vie connue de Cravant, qui a été à la fois, certainement pour lui, d'une extrême importance par suite de la présence de Mina. Il y a des photos d'elle prises par Man Ray qui sont assez superbes. Mais en même temps, Cravant avait imaginé une ou deux rencontres de boxe qui ont mal tourné. Ils ont été obligés de partir. On fait une sorte de tournée dans des villes paumées pour de petits spectacles sur les places pour arriver à trouver de quoi vivre. Et puis à un moment donné, sont revenus vers la mer, et c'est là que, dans une situation certainement très très difficile, enfin matériellement, enfin au point de vue physique également, Cravant a dit à Mila de repartir, d'entrer en Angleterre, puisqu'elle était enceinte, et que lui la rejoindrait. Cravant, c'est une démarche très, enfin à la fois où le spectacle est permanent, mais où l'affirmation de ce qui ne se laissera pas récupérer, de ce qui ne se laissera pas corrompre, est une affirmation d'une très grande importance. C'est un personnage de légende. Enfin, tout suggère, et c'est un de ses charmes, tout suggère une légende. Jusqu'à la dernière, qui a été celle de sa disparition. Il est plus méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l'ombre. Tout grand artiste a le sens de la provocation. Les abrutis ne voient le beau que dans les belles choses.
faire marcher une maison d'édition, ça suppose un travail, une attention technique. Bon, si vous voulez, c'est extrêmement important. Et on ne peut pas dire, n'est-ce pas, que Florian Halley-Beauvici n'avait pas cette ou ces lignes éditoriales que pouvait avoir son mari. Mais il est certain que ce qu'elle a, si vous voulez, cherché, donc après la mort évidemment de Gérard Halley-Beauvici, c'est à la fois donc de conserver quand même, si vous voulez, l'essentiel d'une ligne, d'une inspiration, et elle a continué, elle a fait éditer Orwell, mais il est certain aussi que une inspiration que j'appellerais un peu plus classique, n'est-ce pas, bon, et enfin qui correspond en tout cas personnellement, si vous voulez, à ce à quoi j'ai pu collaborer avec elle, c'est quelque chose dans lequel elle se sentait sans doute plus à l'aise, n'est-ce pas, mais véritablement elle a cherché, elle a réussi, mais malheureusement cette expérience a été courte, puisque elle a elle-même très 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 vite disparu. Mais je crois que lorsqu'on parle, si vous voulez, des éditions Champs Libres, ce serait injuste, n'est-ce pas, de passer sous silence sa présence, son influence.
Et je trouve que là, Halley-Beauvici a certainement une place dans l'histoire de la culture française, et même pas seulement française, je dirais, puisque bien Malevitch, Guy Debord, si on veut, Tarabukine, Shklovsky, ne sont pas des auteurs qui se limitent à quelque chose de local, sont des auteurs qui participent à... ont élaboré une modernité qui est bien plus large, bien plus importante. Il était clair que c'est un homme qui vivait une situation qui s'était imaginée, mais il la vivait complètement. Je pense que le jour où on écrira sa biographie avec les détails qu'il faut, avec le regard qu'il faut, avec les documents qu'il faut, on comprendra pourquoi et comment il s'est constitué tel qu'il était. Mais je pense que c'était quelqu'un qui, intuitivement, s'était jeté à refaire... rendre justice à des valeurs occultées, et c'était pour lui une sorte de mission. C'était un missionnaire moderne, c'est-à-dire violent, c'est-à-dire agressif, c'est-à-dire homme d'affaires qui sait comment faire pour que ça marche. Au bout de quelques minutes, quart d'heure de discussion, il me répondait toujours au fait... c'est vous qui choisissez les sujets, le livre, le thème à traiter. Moi, je ne peux pas le juger. Je vous laisse carte blanche. Évidemment, vous prenez la responsabilité de l'échec aussi. Quand j'ai voulu publier les écrits d'Yves Klein ou parler des choses plus récentes, c'était immédiatement le blocage. Il s'est fermé comme une huître parce que il estimait que ceci n'est pas bon, n'est pas novateur, n'est pas suffisamment percutant. Je ne sais pas comment le dire, mais enfin, c'était pas ça son truc à lui. Il fallait pas y toucher. Bien, on discutait pas. C'est tout.
Fatima. Donne-nous deux verres.
C'est pas tous des tarés en Belgique. C'est le pays le plus propre. Ça sent pas la merde là-bas.
Pourquoi tu te fais pas soigner, Mijou?
Je vais me faire soigner chez les Belges.
Mes joues. Mes joues.
Mes joues.
La première fois, il a, c'est Jacques Le Gloux que tous les anards connaissent. Lui, il était, je crois, avec Guy Debord, Gérard Lebovici. Ils étaient sur le point de faire une édition avec les chants révolutionnaires. Et donc, c'est lui que j'ai connu. C'est lui qui a... c'est lui qui nous a introduit avec Gérard Lebovici. C'est lui qui a dit à Gérard Lebovici, voilà, il y a un film que vous devrez voir, c'est Les Princes d'un certain Tony Gatlif. J'étais très jeune. Et donc, il me voit en disant, mais Gérard Lebovici, qui veut voir ton film? Je lui dis, qui c'est lui? Je ne connaissais pas. Il me dit, c'est le patron d'Armédia. Je lui dis, ah non, alors là, il est hors de question que moi, je m'intéresse à Armédia. C'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas du tout les films que j'ai envie de faire, ni les acteurs avec qui j'ai envie de travailler. C'est des professionnels du cinéma, des entrées, j'ai rien à voir là-dedans. Il me dit, mais non, t'as tort. Et lui, il pourrait nous aider parce que j'avais pas d'argent. Hein. Il y avait des huissiers à la porte. Hein. J'ai terminé le montage pour le montrer, mais franchement, j'allais en arrière en reculant. Et donc, c'est l'heure du rendez-vous. C'était à 20h quelque part dans Paris. Moi, je faisais en dehors de Paris le montage. Et je faisais tout pour ne pas arriver à l'heure. On arrive, il attendait pendant une demi-heure. Il attendait là avec quelqu'un. Et je vois un type comme ça, vachement, vachement classe, assis dans le fond de la salle. On me présente, voilà, Gérard Lebovici. J'ai projeté le film. Et à la fin, il était très, très ému, mais vraiment très, très, très ému. Il a accepté de produire le film, de prendre le film, de le distribuer, de nous donner de l'argent pour le finir et tout. C'est le rêve. Pour moi, c'était vraiment le protecteur, vraiment mon protecteur. Il m'a dit qu'il était prêt à arrêter le cinéma, que ça ne l'intéressait pas, et qu'avec ce film-là, et avec moi, si je veux, on pourrait faire d'autres films, d'autres, jusqu'à ce que, il me dit, jusqu'à ce que, c'est cette phrase que j'ai jamais oubliée, jusqu'à ce qu'on nous laisse tranquille, ou jusqu'à ce qu'on peut, ou jusqu'à ce qu'on existe. Là, et moi, pareil, c'était à partir du moment où j'ai trouvé un producteur qui pouvait me répondre, qui pouvait répondre à ce que j'attendais de quelqu'un, d'un producteur, qui va de l'avant et qui dit non. Puis à un moment, il m'a proposé de faire le film que je rêve, le film que je veux, absolument que je veux. Et j'ai dit, d'accord, je vais réfléchir. Et je lui ai dit, et vous, est-ce que vous avez un film que vous avez envie de faire? Moi, j'ai envie de faire... faire un film à quelqu'un, pourquoi pas vous, qui s'appelle Mesrine. Je connaissais pas beaucoup le personnage, donc il m'a donné le livre. J'aimais pas le personnage, j'aimais pas du tout Mesrine, mais pas du tout. Et il serait en colère s'il était vivant qu'il m'entendrait dire ça, mais je lui ai dit ça. Il m'a dit, t'as tort, bien sûr que t'as tort, bien sûr que non, c'était un type comme ça, il est formidable et tout. D'ailleurs, moi, j'ai envie de faire un film et j'écrirai gloire à Jacques Mesrine. Donc voilà, donc moi, quand j'ai fait mon film, j'ai mis gloire à Gérard Lebovici.
C'était révolté, Gérard, quoi. Et je crois, moi, que ayant prouvé sa réussite, il voulait montrer aussi tout ce que ça avait de pas sérieux, de pas profond par rapport à l'humanité, quoi.
Debord était très présent, était vraiment présent. Était présent parce que je l'ai connu après, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Je l'ai vu rarement, j'ai vu très peu, mais j'ai tout de suite pareil, lui il était tout de suite, c'était c'était quelqu'un avec qui je pouvais manger, pouvais voyager, il y avait aucun problème entre nous. C'est lui qui a fait toute la publicité du film, Les Princes. Lebovici m'appelle un jour chez moi et me dit, pour parler du film, nous avons trouvé un moyen, c'est de mettre des affichettes rouges dans tout Paris. On va badigeonner Paris avec des affichettes rouges et on écrira sur des affichettes rouges, en blanc je crois, ou en jaune sur rouge, on écrira « Les princes ne trahissent pas leur famille ». J'ai dit « ça me plaît ». Ça, c'est bien. Il me dit, mais il y en a une autre. Il y en a plein, mais il y en a une autre. Et je dis, les autres, c'est lesquels? Il me dit, les princes vont pas à l'école. J'ai dit, ça, j'adore. Ok, c'est bien. Les princes ne payent pas d'impôts. J'ai dit, ça, c'est super. Les princes n'habitent pas les HLM. J'ai dit, ça, c'est génial. Il me dit, il y en a une autre qui s'appelle les princes ne votent pas socialistes. J'ai dit, ah non, je veux pas. Parce que c'était le début des socialistes. Et Mitterrand, il venait au pouvoir. Ah non. On le garde. J'ai dit, non, je peux pas. Il me dit, écoutez, vous avez tort. Je dis, je vous assure que non, j'ai pas tort. Et je sais pas comment ça s'est passé. C'est lui qui m'a dit, vous savez pas ce que. Il me dit, ah si, il me dit. Alors, donc je sais pas quel film vous avez fait. Je dis, comment ça? Oui, quelqu'un qui a fait Les Princes, quelqu'un qui a fait votre film, ne doit pas avoir peur d'une phrase comme ça. J'ai dit, ah bon? Et pourquoi? Il me dit, oui, parce que votre film, c'est ça. Et je trouve qu'il avait vachement raison.
Martine Barraquet, Jean-Pierre Bégaud, Claude Berry, Tony Gatliff, Michel Giroux, Bertrand Delabaye, Jean-Louis Lévy, Andrei Borisnakov, Alain Ponce, Alain Resnais, Serge Rousseau. Il est plus méritoire de découvrir le mystère de Bovici dans la lumière que dans l'ombre. Une émission de Benoît Bourreau, Guillaume Loué. Réalisation, Angélique Thibault. Mixage, Juan Richard Dufour. Spasme solitude, orphelinat de charme. Suinte tourne et vire dans tes draps de bois. Cercueil pullman de nuit, brouillard parfois. Cigarette et crachin. Nostalgia. Nostalgia. Corpus. Spasme solitude, orphelinat de chat, tourne soin tes filles dans tes draps de bois, cercueil pullman de nuit, brouillard parfois, cauchemar, sleeping car de chat. Nostalgia. Nostalgia. Corpus.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 février 2004. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.